best-of de la saison numéro 1. Max Hock, comment ça va?
Top shape, toi, mon GF.
On va super bien. Max, on a eu une belle première saison. On a eu des beaux moments. On a décidé de faire un petit best-of. Fait que on va aller voir ça.
Ouais, un beau 30 minutes de best-of. Puis on se voit la saison 2. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau show du matin de Baseball Québec. J'espère que ça va bien. Les boys, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va super bien.
Ça va pas pire, un bon week-end, jouer en masse dans la neige, fait que un petit peu raqué, lancé beaucoup de boules de neige hier. D'après moi, j'ai l'équivalent de 2-3 BP dans le bras là.
Elle était assez collante pour justement profiter de nos bras. Les gars, nouveau concept ce matin. On a décidé de lancer ça aujourd'hui pour communiquer avec les gens en grande partie. Mais Max, je m'en vais directement vers toi, Max Lamarche. J'ai envie que tu nous parles du concept premièrement, puis pourquoi c'est important pour toi de faire ce genre de concept-là.
Ben, écoutez, on a vécu une année de pandémie qui nous a permis de voir les places où on avait beaucoup de succès, puis les places où on avait des choses à travailler. Puis évidemment, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à Baseball Québec que nos membres, les gens à la base, les gens sur le terrain, sont pas toujours au courant. Et c'est dans cette optique-là que quand tu m'as proposé le concept, Jean-François, de dire pourquoi qu'on connecterait pas le matin là, tu sais, tôt là, puis en début de journée, puis une fois de temps en temps, tu sais, Max rentre, une autre fois de temps en temps, Max là, qui dit vous êtes toujours là, mais ouais. On va aller donner de l'information à nos gens, puis tu sais. Derrière chaque décision qu'on prend, il y a beaucoup de réflexion. Puis je pense qu'une fois de temps en temps, plus rapidement d'aller informer notre monde de ce qu'on fait. À titre d'exemple, aujourd'hui, on va parler de 2-3 trucs sur lesquels on travaille depuis des semaines et même des mois. Je pense que ça va juste faire de Baseball Québec une meilleure fédération pour communiquer avec ses membres. Puis je suis convaincu qu'il va y avoir du monde qui va se connecter. Puis plus on va en faire, plus le monde va être au courant de ce qu'on fait. Puis évidemment, plus ils sont au courant de ce qu'on fait, mieux ça se passe sur le terrain.
On s'en va à notre invité ce matin, le directeur technique Robert Brousseau, qui s'en vient nous parler d'un sujet quand même assez chaud, je pense, pour toi à chaque année. Hein.
Je vais te reprendre tout de suite, le directeur technique, c'est Sylvain Saint-Don.
Hey, je me mélange tout le temps, c'est ça le pire. Et directeur des opérations.
Je me mélange avec ce gars-là. Je
pensais que j'avais un nouveau boss.
Non.
T'aurais-tu un conseil pour prévenir les blessures ou optimiser peut-être l'échauffement avant de faire l'activité physique, quelque chose qui pourrait amener dans leur saison dès l'été prochain?
J'aurais plein d'affaires que je pourrais dire, là, mais tu sais, vite comme ça, c'est sûr que, tu sais, parce que j'aurais pu parler d'avoir un encadrement, d'avoir, tu sais, vite comme ça, si on parle de kids en général, tu sais, ce qu'on peut voir en général, puis on en a déjà parlé un peu, c'est que ces jeunes-là ont beaucoup de mobilité en tant que telle. Hein. Ils ont des épaules mobiles, c'est un peu ça en général. Là. C'est un peu ça qui les amène dans ce sport-là, ce qui fait qu'ils ont beaucoup aussi souvent d'instabilité, puis c'est ça qui les met dans le trouble éventuellement. Puis si on parle U9, U13, tu sais, mettons dans la période de croissance, où est-ce que là, ça pousse vite, fait que les leviers deviennent soudainement plus longs, puis j'ai plus ou moins de conscience corporelle. Puis si en plus, je suis un jeune qui a beaucoup de mobilité, ben, tu sais, chez les gens qui ont beaucoup de laxité, qui ont beaucoup de mobilité, parfois on a un peu moins de conscience de nos mouvements dans l'espace, tu sais, fait que puis ces jeunes-là font tout le temps beaucoup le geste technique, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup au baseball, tu sais, fait qu'ils prennent jamais le temps de vraiment focusser sur le mouvement de l'épaule. Puis tu sais, je disais tantôt, une épaule c'est une épaule, hein, que tu veux l'amener à faire des affaires extrêmes ou juste faire tes activités de vie quotidienne, il y a une fonction de base qui est de base, tu sais, pour n'importe quelle activité. Fait que je pense de s'éduquer à savoir c'est quoi des petits exercices correctifs qui ramènent à juste comprendre la fonction de l'épaule, à juste maintenir une bonne stabilité au niveau de la scapula, des omoplates, puis d'intégrer ça dans les warm-up au quotidien pour que ce patron-là soit répété et se fasse. Je pense que d'une part, là, tu sais, c'est très, très général ce que je dis, mais d'une part, ça peut aider. C'est de ramener un peu à la fonction en dehors des gestes techniques spécifiques au sport.
Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, même, tu sais, moi, je t'ai connu comme coach, là, on a jamais arbitré ensemble, mais comme coach, quand Maxime va voir un arbitre, sans dire qu'on parle un langage différent, il sait quel ton utiliser, il sait quel mot utiliser, soit pour faire passer un message très clair à l'arbitre ou poser la bonne question au bon moment. Puis ça, c'est son expérience possiblement d'arbitre qui permet de venir me voir. Puis, tu sais, un gars comme Maxime va voir un arbitre puis est capable de parler dans un jargon arbitre avec des termes précis en matière de réglementation. L'arbitre écoute un peu plus, là.
Ouais.
C'est certain, là.
Ouais, ça, puis... ça nous amène quelque part, là. Je te laisse aller, Max, je pense.
On va attendre un peu. Okay. On va attendre un peu, mais c'est vrai parce que j'ai formé des arbitres aussi à Laval. J'ai été responsable des arbitres de la région de Laval, puis j'en ai formé, puis j'ai suivi des cours de formateurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, je te dirais pas que je connais super bien mes règlements, mais j'en connais assez pour avoir une bonne discussion avec un arbitre quand ça fait mon affaire. Mais je reste respectueux.
Le matin, c'est ce qui me motive. Je demande souvent à des prospects quand je leur parle. C'est quoi qui te motive pour le matin quand tu plaides? Tu joues-tu pour ta mère, ton père, pour ton grand-père? Tu joues-tu pour toi? Tu joues-tu pour l'argent? Juste savoir qu'est-ce qui motive les gens. Puis moi, c'est quelque chose qui me motive. Ça me manque. Cet automne, c'est vraiment la première année qu'on a malheureusement pas pu faire nos écoles de baseball à Saint-Bruno et à Terrebonne. On avait des inscriptions records. On a dû rembourser tout le monde. Les gens aiment ça. Puis l'autre chose, c'est le développement des jeunes entraîneurs comme Max. Max est peut-être plus jeune entraîneur, jeune vétéran qu'on peut appeler, mais de donner la chance à des jeunes de 18, 19, 20 ans qui ne savent pas nécessairement où ils veulent aller, de venir enseigner leur passion aussi, puis de les entourer, puis de les encadrer de la bonne façon. Puis ce qui me fait capoter aussi, c'est quand je suis capable de laisser ces jeunes-là donner un cours, puis moi, je peux observer ou je peux m'en aller vers un autre cours. Il n'y a rien de mieux que ça dans la vie, les gars.
Ben, c'est une annonce d'envergure. C'est une personne c'est une personne internationale, je pourrais dire ça, là. Tu sais, elle a beaucoup de vécu. Puis je pense que ça va être un bon avancement pour le baseball féminin au Québec.
Tout à fait, tout à fait. Vanessa Riopel, comment ça va?
Ça va bien, merci, vous.
Ben oui, félicitations.
Merci, super gentil, très contente.
Ouais, avec tambour et trompette, Vanessa.
Ouais, vous faites ça en grand, les accueils d'employés à la Fédération.
Ouais.
Nous, on n'a pas été engagés comme ça, par exemple.
OK.
Napkin sur le coin d'une table.
La COVID a du bon.
Super bien. Belle semaine qui se termine encore une fois aujourd'hui. Toi, comment tu vas?
Ça va très bien, ça va très bien. Là, cette semaine, j'ai eu des commentaires sur mes cheveux, fait que j'ai remis ma casquette. J'ai eu un commentaire sur les cernes, fait que ça n'a rien changé. Peut-être la lumière va faire une petite différence, mais bon, ça va bien.
OK, t'as pas acheté la petite crème que je t'ai envoyée, non?
Non, je ne suis pas rendu là encore, malheureusement. Mais peut-être, parfait. Éventuellement.
Ouais. Ben, Sportaid, c'est une organisation qui a été créée il y a quelques années déjà pour venir en aide à la communauté sportive. Donc, tout athlète ou toute personne impliquée de près ou de loin dans la pratique sportive qui vit une expérience qui est pas positive. Donc, qui vit des violences, qu'elles soient d'une physique, sexuelle, psychologique, de l'intimidation, de la cyber-intimidation, du harcèlement, des abus. Ben, les individus victimes ou témoins peuvent maintenant, depuis 3 ans bientôt, faire appel à un service d'aide, d'écoute et d'accompagnement en ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est gratuit, c'est bilingue et c'est confidentiel. Ça, j'insiste là-dessus, c'est confidentiel.
Ouais. Hey Max, on a une autre belle semaine qui s'en vient. On a Max Lamarche tantôt, que je peux même faire rentrer là parce que lui, grand fan de Aaron Rodgers, des Packers. Il était déçu la semaine passée, puis cette année... Pas cette année, mais hier, il m'a texté qu'il aimait bien Tom Brady et qu'il était content de sa victoire. Fait que tu penses de quoi de ça, la victoire hier, toi, Max?
C'est Max Lacassine, tu parles, là?
Non, c'est toi, Max.
Ben, écoutez. Hey, c'est le fun d'arriver un petit peu en retard. J'ai manqué le début. Non, mais il faut se le dire, là, Tom Brady, c'est un grand. C'est le meilleur de tous les temps. Il a toujours eu des belles offensives, des belles équipes devant lui pour lui permettre de faire sa magie. J'ai pas de trouble avec ça, évidemment. Ben, moi, mon équipe, c'est les Packers. Fait que là, écoutez, c'est un petit bombe hein, de se dire que ceux qui ont gagné le Super Bowl sont quand même ceux qui ont éliminé les Packers. Fait que je le vois comme ça.
Donc, à l'université, en nutrition, j'ai fait ma maîtrise en nutrition sportive. Puis là, j'ai commencé justement à travailler pour les Carabins de l'Université de Montréal, donc pour tout plein de sports. Malheureusement, il n'y a pas de baseball dans les Carabins, mais j'ai beaucoup travaillé avec le football, soccer, hockey, tout ça. Puis... éventuellement, j'ai eu la chance de travailler à l'INS, qui est l'Institut national du sport du Québec, avec des athlètes olympiques. Et là, ça a été comme un step de plus vers la haute performance. C'était vraiment génial. Je travaillais avec des boxeurs, des équipes para, donc rugby en fauteuil roulant. Un autre monde complètement, des athlètes de trampoline. Bref, c'était très, très... Mon parcours avec les athlètes a toujours été très, éclectique. J'ai travaillé avec des sports très, très variés, très différents, mais c'est le fun parce que ça me donne un bon aperçu de sports individuels, d'équipes, de tous les styles de vitesse, puissance, etc. Puis là, ben, cette année, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Baseball Québec, qui est un sport, honnêtement, avec lequel je n'avais jamais travaillé.
Oui, Antoine, toute une attitude. Tu sais, tantôt, on parlait de mes top 3, là, mais si on divise encore dans sa tête, là, c'était le top 1 dans sa tête, là, parce qu'il sait où ce qu'il s'en va. Il est tellement mindé sur ce qu'il a à faire. C'est incroyable. Une petite anecdote pour lui, tu sais, la première année qu'on a fait sport-études Midget 3A en 2016, lui, il était deuxième année Bantam, fait qu'on on l'a emmené dans le D2, dans la division 2 qu'on avait à l'école. Okay. On avait D1 et D2. Puis au début de l'année, ben, c'était tough un peu pour lui, mais rendu au mois de juillet, là, il a vraiment été vers le haut, là, il a vraiment débloqué. Puis on a fait un tournoi cette année-là à Bowling Green State, en Ohio, puis il n'y avait pas eu beaucoup d'inscriptions dans le tournoi, puis mon équipe de D2, j'avais inscrit les deux équipes, on a joué dans du 18 ans, j'avais inscrit mes deux équipes dans 17 ans et moins, mais comme il n'y avait pas assez d'équipes 17 ans et moins, on a joué dans 18 ans et moins. 18 ans et moins aux États-Unis, avec l'âge, le cut-off date des États-Unis, ça veut dire qu'on peut jouer contre des 19 ans, là, parce que si tu as 19 ans, 2 mai, tu es dans du 18 ans et moins. Puis Antoine, il a lancé une game là, contre l'équipe qui a gagné le tournoi, qui était Columbus, là, puis il les a tenus pendant 5 manches. Puis il n'avait pas de l'air d'un jeune de 15 ans. Là. Il avait de l'air vraiment d'un gars de 18 ans qui lançait sa butte, à part le physique, parce qu'il était tout petit, il était tout mince. Mais il menottait tout le monde avec sa curveball, avec sa tête qui sait où lancer, puis comment déjouer le frappeur. Fait que c'est sûr que... Puis il a continué. Hein. L'année passée, il a eu un bon début aussi avec Alabama.
Ouais.
Je souhaite que cette année, ça soit pareil puis encore mieux. Là. Fait que...
En forme, Antoine?
En forme.
Là, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu, là, ils vont faire le saut un peu. Là. T'es un peu plus rond qu'il y a un an et demi.
Non, j'ai encore besoin de prendre du poids. C'est encore une priorité, mais on est en bonne voie.
Ouais. Parce qu'avant de partir, on t'appelait petit Jean, là, ça va être Monsieur Jean, là. 180 livres, tu disais?
Qu'est-ce que tu dis?
180?
180, ouais. Je pense que ma première pesée l'été passé, j'étais 149, 150.
Wow.
149,
wow.
Je pense, ouais.
Wow. Ça, c'est ça, ouais. OK. Ouais. Puis ceux qui n'ont pas remarqué tes rondeurs, ils ont sûrement remarqué tes oreilles aussi, là. Le look qui change tranquillement, pas vite. Là. Y a-tu des tatous qui s'en viennent? Y a-tu faire sauter maman et papa à la maison? Là?
Ouais, c'est ça, je veux pas les faire.
Ouais, fais attention aux lives.
Moi, personnellement, moi, je pense qu'il y a des tatous qui s'en viennent, mais on sait pas, on va voir.
Souvent, dans nos échanges, GF, on va avoir des parents qui lui demandent « Oui, mais... OK, vous n'avez pas retenu mon gars sur l'équipe du Québec. C'est pourquoi vous ne l'avez pas pris? Le morceau qui manque, puis à ça, puis Marc, tu dois répondre un peu la même chose. C'est, ça va toujours être ça. Puis le coach de hockey va pouvoir vous dire la même chose. À un moment donné, tu vas te bloquer dans ton développement parce que tu ne lances pas assez fort, ou tu ne cours pas assez vite, ou tu ne frappes pas assez loin. À un moment donné, ces éléments-là vont faire en sorte que tu vas te bloquer toujours pour monter à un niveau supérieur. Donc, puis, il faut comprendre que ces trois morceaux-là sont des fois reliés dans le sens que si tu cours pas, ben, il faut que tu frappes fort en maudit. Puis, si tu frappes pas fort, ben, il faut que tu lances fort. Fait que, il faut qu'à un moment donné, tu aies un de ces morceaux-là qui se distingue si tu veux avoir une place parmi les meilleurs dans ta province, parmi les meilleurs au pays.
Pour moi, ça importe très peu. D'ailleurs, quand on me demande qu'est-ce que je retiens de ma carrière, c'est quoi les meilleurs moments, c'est jamais en rapport à mes résultats, parce que ça, c'est accessoire et ça dépend de tellement de choses, que ce soit le talent, que ce soit les opportunités, que ce soit les moyens financiers. Tu sais, il y a plein de choses qui sont complètement indépendantes de la personne et qui peuvent faire la différence entre des résultats. Par contre, tout le processus, ça, c'est ce qui fait que quelqu'un qui a été dans le sport, je pense, à des outils, peu importe où est-ce qu'il s'est rendu puis à quel niveau il a cheminé. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec le sport.
Hey, vendredi matin, sincèrement, là, de parler de baseball un vendredi matin, il n'y a rien de mieux. Tu sais, vendredi, on veut, surtout le matin, on veut faire des choses qui nous activent, là, tu sais, pour bien partir la journée puis rentrer le week-end en feu. Fait que je vous remercie de m'avoir invité un vendredi matin pour faire ça.
Et c'est ce que j'ai véhiculé. Puis Marc, toi, on sait tes pratiques, c'est au quart de tour, n'est-ce pas?
Oui, bien, c'est bien sûr. D'ailleurs, c'est quand tu dis que tu commences ta pratique à 18 heures, tu ne la commences pas à 18h01. Ça commence à 18h. Moi, j'avais mon chronomètre là, ou ma montre. Il y a 6h, 18h, je commençais à parler. Pourquoi ça? C'est simple, parce que si tu commences à 6h01, 6h02, 6h03, ben, les joueurs vont arriver à 6h01, 6h02, 6h03. Et ainsi de suite. Ils vont arriver à S5 et disent c'est pas grave d'être en retard. Moi, la ponctualité, c'est extrêmement important.
Encore aujourd'hui, c'est encore tabou, on va le dire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, non, je ne vais pas travailler en préparation mentale ou avec un psychologue parce que je n'ai pas des problèmes psychologiques. » Écoute, ça n'a aucun sens de dire ça encore aujourd'hui, puis surtout avec ce qu'on connaît avec la santé mentale, puis tout ça. Écoute, si on pense à quelqu'un qui travaille son côté technique dans son sport, pourquoi on fait ça? Pourquoi on prend des swings? Pourquoi on apprend à lancer la balle? Pourquoi on apprend à fielder des balles au baseball? Parce que les exigences de la game le demandent. Pourquoi on entraîne notre corps à être plus fort, plus puissant? Ben, c'est parce que les exigences de la game le demandent. Ben, les exigences de la game demandent un côté psychologique extraordinaire aussi, de devoir rebondir des chèques, de pouvoir se concentrer, d'imaginer notre présence au bâton qui s'en vient. Moi, je ne travaille pas avec des athlètes qui sont faibles mentalement. Je travaille avec des athlètes qui veulent devenir plus forts mentalement. Fait qu'ils n'ont pas des problèmes. Ils veulent juste amener ça à un autre niveau parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la pression à gérer, il y a de la nervosité à gérer. Puis surtout dans votre sport. Je veux dire, c'est tellement un sport psychologique.
Ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils couraient sur ces circuits-là. Fait qu'il était une coche supérieure à nous. Mais regarde, des fois, on avait des bons résultats, puis souvent, on essayait d'apprendre, puis on roulait plus dans le peloton arrière. Mais ça, tu sais, ça m'a pas empêché d'apprendre, puis d'évoluer. Puis l'année suivante, c'est là que j'ai réussi à signer avec une équipe dans le sud des États-Unis, avec David Gann Racing, en 2016. Puis on a ma première année en Super Late avec eux. J'ai gagné le championnat de la série Car Store. On a gagné 4 courses sur 10. Puis j'avais fait peu d'autres courses un peu partout. Puis ça avait été toute une saison. Là. J'avais appris énormément, puis on avait été très performants.
Parce qu'ils peuvent, on a 24 heures pour avoir les décisions, tu sais. Fait qu'il a appelé l'équipe locale, puis on dit, on peut-tu parler au marqueur? Fait qu'il m'appelle. Fait que 8 heures le matin, téléphone sonne. Puis c'est Cecil Cooper qui m'appelle. Puis là, j'étais excité un peu. J'ai dit, Cecil Cooper. J'ai dit, même Cecil Cooper qui a joué pour les Brewers, là, j'ai la carte de baseball. On parlait de carte de baseball tantôt. J'ai dit, tiens, bon joueur de premier but. Il dit, oh, ouais, c'est bien moi. Il dit, je vais te parler du jeu. Il dit, je pense que la balle t'est frappée dure. Tu étais un peu dur avec la décision. Je pense qu'on aurait pu donner un coup sûr. J'ai dit, vous avez joué au premier but, hein? Il dit, ouais. J'ai dit, pensez-vous, vous auriez été capable d'attraper ce balle-là? Là, il y a un long silence. Il dit, je m'excuse de t'avoir dérangé. Ça a été terminé. Ça, c'est fini de même.
Fin de la discussion.
Fin de la discussion. Fait que ça a été des belles expériences. Fait que...
J'aime que tu spécifies que c'est pas ton top 25, parce que tantôt, hors caméra, tu disais que tu as eu beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, c'est bien de spécifier quand même à ce niveau-là.
Je me trouverais imposteur de, tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, pour établir c'est qui les 25 personnalités québécoises les plus influentes, tu sais. Alors que si je fais appel, le plus de collaborateurs que j'ai, qui sont bien présents dans le milieu aussi, c'est là où que le palmarès veut dire quelque chose.
Comment ça s'est bâti, ces relations-là, avec des joueurs?
Mais ça a commencé avec ma collection, puis après, tu sais, quand tu connais un expo, puis deux gars, là, puis Rondel, ça a commencé vraiment avec ma collection, avec notre fondation, excuse-moi. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai appris que c'est un gars avec un... C'est un grand cœur, puis c'est un super bon gars. Il était à la mariage de mon fils. On a eu du fun, là. Puis c'est un gars, you know, assez plaisant. C'est pas un gars qui a une grosse tête, puis des affaires comme ça. So, Rondel, toute ma famille adore Rondel. Là. He's a fan favorite dans ma famille. Les femmes l'adorent aussi. So, c'est good, you know?
Je suis pas surpris. J'ai eu la chance de... pendant un événement au Stade olympique, de parler avec Marquise Grissom aussi. C'est impressionnant comment que ces gars-là, c'est des idoles pour toi. Puis quand tu leur parles, ils te parlent comme si tu étais un ami, comment ta relation est proche. C'est particulier. Puis c'est agréable de voir que dans le temps des expos, c'était ça, c'était la proximité avec les partisans.
Oui, parce que toutes les anciennes expos, ils adorent Montréal encore aujourd'hui. S'il y a une chance de retourner, ils veulent faire. C'est une ville qui l'ont pas oublié. Puis c'est pour ça. C'est pas une. Ces gars-là comme Grissom, Rondell White, Cliff Floyd, ils ont grandi ici, ouais. Dans les mineurs, puis ils ont commencé leur carrière ici. So, ils vont avoir toujours une place spéciale.
Il était dur à cacher au hockey aussi. Là. C'était naturel. Ouais. Sur
la mais toi aussi, tu as un talent au hockey. Tu n'as pas fait la série Montréal-Québec? Ouais.
J'ai fait ça en 2009-2010. C'était la première édition. Mais ouais, j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey... jusqu'à ma deuxième année Bantam. Puis après ça, il fallait que je fasse un choix. Là. À ce moment-là, je pense que j'aimais les deux autant, mais j'avais plus une capacité de... J'étais plus doué au baseball qu'au hockey. Puis j'étais plus petit, tu sais. Fait que au hockey, ouais. Plus tard, j'ai grandi. Ça aurait peut-être été différent, là, mais on ne saura jamais.
Série Montréal-Québec, c'est vraiment intéressant, ça. Par exemple, je me rappelais pas que tu avais été là-dedans, mais oui. ça a été quelque chose là, quand même. Là.
C'était vraiment cool comme expérience. C'était tout du monde du milieu du hockey ou presque. Là. Moi, je connaissais le milieu du hockey à cause de mon frère, mais dans ce temps-là, lui, il jouait juste junior. Mais là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, puis je voulais l'essayer pour le fun. Finalement, je passe à travers tout ça, puis tu sais, je me débrouille au hockey, puis si tu m'évalues pas trop longtemps, peut-être que tu me trouves bon. si je connais une bonne game, je peux être bon. Des fois, je peux être mauvais, mais j'ai des skills. Tout ça, je me débrouille. Fait que je m'étais faufilé là-dedans, mais la chose que je savais pas, là, c'est que je jouais au baseball. Fait que c'était dans mon off-season, tout ça. Fait que une demi-heure avant le premier match, ils nous donnent les règlements, puis ils nous disent fait que finalement, c'est contact. Là, je peux pas me blesser, moi. Fait que j'ai su une demi-heure avant tout ça, avoir su dès le début que ça allait être contact, sûrement que je m'inscris même pas aux auditions, ces affaires-là, mais bref.
Joe, il y a Jean Allard qui est sur Facebook, parce qu'on vient de parler un peu de ton repêchage, ton parcours, puis il nous demande, il aimerait t'entendre sur tes années avec les Associés de Laval dans le junior, puis l'année 2002. Mais il donne pas d'explication, fait qu'il y a-tu quelque chose de spécial en 2002 puis avec les Associés?
Là, attends un petit peu, là, faut juste me remettre à 2002. Ça, c'était ma deuxième année. Ouais, ma deuxième année dans le junior. J'avais eu une très bonne année, là. Je pense que j'avais, j'avais battu le record de coucheurs de la ligue. C'est peut-être à ça qui fait référence, là. J'avais frappé un circuit, je m'en souviens, à Trois-Rivières pour battre le record de coucheurs. Ça a été une année assez positive offensivement et défensivement pour moi, là, mais je dirais que c'était un beau souvenir cette année-là. Là, mes trois années à Laval, j'ai vraiment bien aimé. Là, j'ai rien à dire. J'ai été bien traité, j'ai eu du fun. J'ai eu une année écourtée avec une blessure qui a failli mettre fin à ma carrière avant que tout ça commence. Là, une blessure, une collision à Charlebourg que j'avais manqué là, comme deux mois. J'avais eu presque perdu un rein, tu sais, c'était vraiment une grosse collision, là. Ça a été dangereux. J'ai failli vraiment arrêter de jouer à base à ce moment-là. Mais finalement, j'ai été chanceux, tout est revenu, puis j'ai pu avoir une belle carrière à Laval.
Ben, le baseball, c'est ma première, mon premier amour. Quand j'étais jeune, avant même de vouloir être un skieur ou d'être champion olympique, ce que j'ai toujours rêvé, c'était jouer dans les ligues majeures au baseball. Puis j'ai fait tout mon baseball de jeunesse. Je me souviens plus j'ai commencé à quel âge à jouer, mais jusqu'à temps que je monte sur l'équipe nationale en ski. Donc ça a quand même été une bonne grande partie de ma vie. Puis comme j'ai dit, tu sais, moi j'ai fait le camp de baseball d'Éric Gagné quand j'étais jeune. Je me souviens plus j'avais quel âge. Ça c'était vraiment cool. J'ai été bad boy pour les expos. En plus, la seule fois que je l'ai fait, c'était contre les Dodgers. Je me souviens plus, je pense c'est en 2001 ou 2002 dans ce coin-là. Donc vraiment des beaux souvenirs pour moi.
Très le fun, ça. Eric, fan de ski, as-tu déjà fait du ski, toi, étant plus jeune?
Ah oui, j'ai fait beaucoup de ski. Je suis toujours à Park City. Nous autres, on a dit, moi, je suis en Arizona. Park City, c'est en 1h30 d'avion. Donc, moi, je pense que je suis un bon skieur, mais là, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui va peut-être m'accoter un petit peu. Mais j'ai toujours adoré le ski. Depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai fait du ski. Mon père était un fan de vraiment faire tous les sports. Puis le baseball, c'était mon sport d'été. Le ski, c'était mon sport d'hiver. Puis avec le hockey, un petit peu. Fait que. Écoute, c'est le fun d'être en présence d'une personne qui accomplit tellement dans son sport. Puis, écoute, j'ai adoré le ski, j'adore le ski encore. Je n'ai pas fait pendant jouer au baseball, ils ne laissent pas faire ce qu'on veut. Fait que j'ai recommencé pas mal. Là, j'en fais 3-4 fois par année quand je vais à Park City ou l'année passée, j'étais allé à Whistler. Fait que j'ai des beaux voyages. Mais mes voyages, c'est voyages de ski.
Quand Michael va ouvrir son école de ski, tu pourras y aller. Ça va être un échange. Ça va être intéressant.
Là, c'est ça à 100%.
C'est bon.
Là, tu m'entends.
Ah, oui. Nous autres, on t'entend depuis le début, mon.
Ah ouais?
Ça, c'est quand même comique. Là. C'est...
Ouais, hein?
Bon, là, on t'entend. Touche pas à rien. Touche pas à rien.
Après un Cy Young et un Olympien, moi, le gros, il arrive avec sa caméra. Hey non, franchement, j'écoutais l'entrevue, boys, là. J'avais juste le goût de te texter. G, là, hey, laisse faire mon segment que je suis sur le Joe Jackson, là. Continue. Ben donc, là, tabarnouche, que c'est intéressant. C'est vraiment ouais. Vrai. T'sais. Bon, là, tu veux-tu que je parle de mon entraînement de l'Olympien?
Non.
Non. Vas-y avec ton texte.
C'est malade, c'est malade.
Moustique, c'est... Ouais, non, ça ne tente pas, OK? Est-ce que je pourrais parler de mon expérience aussi? Là? Non.
On va y aller avec ce que tu es très bon pour faire, donc nous conter une histoire.
Oui, parfait.
De la famille H2O Web Media.